Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Vous l'avez entendu, Haïti est en proie depuis des années à la violence des gangs, mais depuis une semaine, un nouveau palier a été franchi. Les groupes armés ont profité de l'absence du Premier ministre contesté Ariel Henry, pour prendre le contrôle d'une partie du pays et de la capitale Port-au-Prince. Jérémy Chérizy, l'un des principaux chefs de gang, a émis la menace d'une guerre civile au cas où l'actuel Premier ministre refuserait de démissionner. Face à ces menaces, une solution politique est-elle possible? Bonjour Frédéric Thomas.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, chargé d'études au CETRI. Et tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que sont ces gangs, parce que les gangs sèment, hélas, le chaos et la désolation. C'est quelque chose de commun à de nombreux pays, mais qu'ils réclament la démission d'un Premier ministre, là, en revanche, c'est quelque chose de plus inédit.
Oui, donc ces gangs, il y en a plusieurs centaines, mais il y a surtout deux grandes coalitions, le G9 et le GPEP, qui se sont alliés pour mener des attaques coordonnées sur des sites stratégiques et symboliques depuis le 29 février. Donc ils ont attaqué les deux grands centres pénitentiaires, ils attaquent l'aéroport, ils ont attaqué aussi le port, une dizaine de commissariats, l'Académie nationale de police. Ils regroupent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de membres. Ils sont fortement armés, structurés et occupent à l'heure actuelle, on estime, près de 90% de la capitale Port-au-Prince.
Pourquoi réclament-ils la démission du Premier ministre ?
Mais il ne faut pas se tromper sous la rhétorique anti-gouvernementale, voire révolutionnaire de ces gangs armés. Il n'y a pas de projet politique. Ils surfent sur l'impopularité, le rejet massif de ce Premier ministre.
Voilà, c'était ma question, effectivement.
Et donc, ils essayent de gagner un soutien populaire, de légitimer leur action, de lui donner une couleur politique et sociale. Mais dans les faits, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, le contrôle du territoire, afin de rançonner la population.
Donc il n'y a rien à espérer de ce côté-là. On n'a pas affaire à des organisations para-étatiques ayant vocation à jouer un rôle politique dans le futur.
Non, pas du tout. Ce sont des organisations qui se manifestent par par la terreur, par des viols systématiques, ils rançonnent la population. Je pense qu'ils agissent essentiellement au vu de la prochaine probable arrivée d'une mission internationale. Ils essaient de se positionner et donc de gagner en territoire pour être dans un rapport de force qui leur soit favorable.
Comment expliquer la puissance de ces gangs en Haïti ?
Mais ces gangs ont été traditionnellement, depuis les Tonton Macoutes ou Duvalier, il y a une privatisation de la violence et une instrumentalisation des gangs armés par la classe politique et l'oligarchie. Ce qui est nouveau depuis 5-6 ans, c'est que cette instrumentalisation est devenue structurelle et qu'elle a permis à ces gangs de se développer, de se structurer, de s'enrichir, de se déployer aussi. Ils ont été utilisés d'abord pour réprimer le mouvement social de 2018-2019. Et au fur et à mesure qu'ils gagnaient en puissance, ils se sont autonomisés de leurs tuteurs dans cette classe politique et cette oligarchie, et pour mettre en avant leurs propres intérêts. Et ils jouissent d'une impunité totale et d'un gouvernement illégitime qui ne les a pas combattus, qui non seulement est resté inactif, mais très largement complice de ces bandes armées, au point d'en être arrivé à la situation actuelle.
Une situation qui est terrible, effectivement, et que l'on observe tous les jours. Alors, il y a en particulier un chef de gang, Jérémy Chérizy, j'en ai parlé, il est surnommé Barbecue, il a beaucoup fait parler de lui. Qui est-il ?
Oui, c'est un peu un personnage emblématique, parce que c'est censé être l'ennemi public numéro un. C'est un marqueur de la montée en puissance de ces bandes armées et de leur lien avec la classe politique, puisque c'est un ancien policier qui avait déjà été mis en cause en 2017 pour des exactions, des exécutions sommaires, mais qui va surtout, son premier fait d'armes, entre guillemets, c'est le massacre du quartier populaire à Port-au-Prince de La Saline en novembre 2018, où 71 personnes sont tuées. c'est un massacre qui est considéré comme un crime d'État, qui est lié à l'ancien, qui a servi à punir l'opposition à Jovenel Moïse. Et à partir de là, ce massacre en annonce les suivants, le même mode opératoire, la même déploiement de cette violence sans que la police intervienne et qui se développe dans des quartiers populaires, qui est bastion de l'opposition. Et donc Jimmy Chorizier était perçu par nombre d'ONG de droits humains comme le bras armé de l'ancien président Jovenel Moïse. Et donc il a réussi à fédérer toute une série de bandes armées au sein du G9. Et depuis lors, il n'a cessé de gagner en puissance sans jamais être inquiété par le pouvoir en place.
Alors, ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Cela signifie qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut imaginer, j'ose dire, espérer pour Haïti ?
Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la situation actuelle met à nu, c'est la faillite du gouvernement d'Ariel Henry, et aussi à travers cette faillite, la faillite de la stratégie internationale qui n'a cessé de soutenir ce gouvernement et a été sourde aux voix de l'opposition qui disait que ce gouvernement n'était pas légitime, n'était pas représentatif et que le nœud du problème sécuritaire était politique, qu'il fallait d'abord un gouvernement légitime, représentatif auprès de la population haïtienne et pas un gouvernement qui soit plus attentif aux demandes, aux exigences de Washington, de la communauté internationale, que des demandes de la population.
Parce que donc, pour vous, pardonnez-moi, je vous coupe comme je ne vous vois pas, puisque vous êtes en duplex, Frédéric Thomas, et parce que ce gouvernement est de fait illégitime ?
Tout à fait. Donc, Ariel Henry n'a pas été élu. Il a été nommé à 24 heures avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il a été soutenu à bout de bras par la communauté internationale qui estimait qu'il fallait passer par ce gouvernement et par des élections au plus vite. 30 mois plus tard, on est dans une situation catastrophique où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de transition. Et la communauté internationale découvre, entre guillemets, l'impopularité, la faillite de ce gouvernement. Donc on doit passer d'abord par une transition. On a perdu 30 mois pour mettre en place cette transition. Et voilà, on revient à la case départ et on est obligé de passer par une transition de rupture qui est demandée à corps et à cri depuis 30 mois par l'ensemble des organisations de la société civile. On ne pourra pas faire l'économie et de cette transition et de cette rupture avant de passer éventuellement à des élections.
Mais alors, qu'est-ce que l'on peut imaginer maintenant ? Donc, manifestement, ce gouvernement illégitime devrait s'en aller. Je veux dire, il serait souhaitable, semble-t-il, qu'il s'en aille. Est-ce qu'il peut y avoir une aide internationale, une force internationale présente sur place ? Puisque l'aide, elle est déjà là, évidemment.
Oui, mais évidemment, les diplomates internationaux sont très embarrassés parce qu'ils sont obligés de trouver une solution dans l'urgence. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est quoi pour succéder à Ariel Henry ? De toute façon, lui, son départ est un prérequis pour une ouverture, mais ça ne règle pas en soi la situation. Il faut ouvrir les négociations aux acteurs de la société civile et voir alors que un gouvernement représentatif décide quelle forme d'appui international, à quelles conditions pour venir en aide à la situation actuelle. Mais aujourd'hui, faire appel à une mission internationale pour renforcer un gouvernement, une police complètement discréditée et gangrénée par la corruption n'a pas de sens. Il faut d'abord remettre aux mains des Haïtiens et Haïtiennes leur gouvernement et qu'ils décident par eux-mêmes quelle forme et quelle modalité d'un appui international.
Mais alors, certes, on comprend bien ce que vous dites, Frédéric Thomas, mais il y a aussi des mesures, j'imagine, qui relèvent de l'extrême urgence, parce que on a vu des images de foules fuyant leur quartier. Enfin, si ces bandes font semer la terreur, il faudrait d'ores et déjà que cela s'arrête. Et j'imagine que ça pose toute une série de problèmes de sécurité intérieure.
Oui, tout à fait, parce que la police a largement déserté les rues de Port-au-Prince. Nombre de policiers estiment que les bandits et la police ont les mêmes chefs. Donc ils ont une défiance envers leur police, mais il faut cesser de recourir aux mêmes stratégies prétendument d'urgence qui ne font que répéter les mêmes failles. On ne va pas réinstaller par la communauté internationale un gouvernement illégitime simplement pour accueillir, entre guillemets, les 1000 policiers kényans qui vont être dans l'incapacité de régler le problème structurel qui est celui des liens entre ces bandes armées et la classe politique et l'oligarchie. Il faut que la diplomatie internationale prenne acte de la faillite de sa stratégie et entende les propositions qui sont sur la table depuis plus de 30 mois, qui sont une transition de rupture. On est obligé de passer d'abord par un consensus au sein de la société haïtienne et par cette transition avec des acteurs crédibles qui ont une légitimité, qui ont une représentativité et qui portent un projet au sein de la société au risque sinon de reproduire les mêmes causes et donc d'avoir les mêmes effets.
Merci Frédéric Thomas. Vous avez publié « Haïti, l'échec humanitaire » aux éditions Couleur Livre. Dans quelques instants, eh bien, nous serons avec Alexandra Delbo qui se demande s'il y a des différences entre les hommes et les femmes.